Chinon sur Radio Armada.
Ce soir, on refait le monde. Alain Desmarais sur Radio Armada pour une chronique hebdomadaire consacrée à l'état du monde et aux luttes de libération des peuples. Alors bonjour à tous, espérons vous trouver en bonne santé en ces temps où un ennemi invisible et redoutable nous contraint tous au confinement. Après avoir été réduit au silence, à la radio comme dans beaucoup de médias, nous avons essayé d'adapter nos émissions afin de continuer à nous adresser à vous et de respecter en même temps les gestes barrières. C'est pour ça que pour ceux qui nous suivent sur Facebook ou sur YouTube, vous voyez notre invité que je vais présenter dans quelques instants et vous voyez Alassane qui est au studio et bien sûr nous ne sommes pas tous les trois autour d'une table dans le studio. Alassane, notre technicien que nous saluons et remercions donc est seul au studio. Les animateurs des chroniques différentes que vous aurez chaque soir animent de chez eux et nos invités également des quatre coins de France. C'est donc une émission plus courte qu'on va vous présenter ce soir, sous forme de chronique, et elle aura lieu donc chaque semaine, le mardi à 19h, même si ce soir on est un peu en retard, c'était la première, et cela jusqu'au congé d'été. Une chronique toujours consacrée aux enjeux internationaux, dont la crise actuelle nous démontre encore une fois que dans un monde interdépendant, la coopération, la solidarité à l'échelle du globe sont plus nécessaires que jamais. Et ce soir, donc, le titre de notre rubrique, c'est l'ONU, des idéaux plus actuels que jamais. Alors, nous allons donc évoquer les institutions internationales, l'ONU en particulier, mais également l'OMS, l'OMS qui est sous les projecteurs en ces temps de pandémie à l'échelle du globe. Alors que la crise du coronavirus vient réaffirmer violemment que la santé est un enjeu global dans un monde donc interdépendant, et on le voit avec l'épidémie de coronavirus, et renforce donc le rôle de l'Organisation mondiale de la santé, celle-ci se retrouve sous les feux des critiques, accusé par Donald Trump en particulier d'être acquise à Pékin, d'avoir tardé à sonner l'alarme et finalement de s'être totalement planté, dit-il. Ce n'est pas la première fois que Trump et les États-Unis s'attaquent aux institutions internationales, mettant en cause l'ONU et ses agences, coupant les vivres de l'UNRWA, l'UNRWA, en Palestine, c'est une agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés palestiniens. Alors, ces institutions internationales, l'ONU en particulier, l'OMS, mais on y reviendra sur d'autres agences, qu'en est-il exactement de leur rôle, de leur pouvoir, de leur financement, des enjeux qu'elles représentent dans un monde où les réflexes protectionnistes poussent au repli nationaliste, alors que notre monde est de plus en plus globalisé. En fait, à quoi servent-elles, ce que se posent souvent beaucoup de gens? Alors, nous allons en débattre avec notre invitée ce soir, Chloé Morel.
Bonsoir.
Historienne. Bonsoir, Chloé.
Bonsoir, merci.
Historienne, chercheuse à l'Institut d'Histoire moderne et contemporaine, et spécialiste de l'ONU et ayant rédigé deux ouvrages, l'ONU en 20 leçons chez l'Harmattan et l'ONU au fil de ses dirigeants aux éditions du Croquant. Tout va bien pour vous, Chloé ?
Bien, merci.
Voilà, vous êtes à Marseille, je crois ?
Non, je suis originaire de Marseille, mais je vis à Paris, donc je suis à Paris, là.
À Paris. D'accord, voilà, très bien, là. Bon. Avec le confinement, on est, voilà, on est chacun à un bout du monde. Alors, on va commencer sans plus tarder, parce que notre émission sera relativement courte ce soir, hein. Et donc, trois questions au sujet de ces institutions internationales. La première, c'est, bon, d'abord, nos concitoyens entendent très souvent parler de l'OMS ces derniers temps, mais aussi dans la dernière période de l'ONU, entendent parler quelquefois des casques bleus au fil des conflits dans le monde. Mais le rôle de ces institutions internationales est somme toute assez mal connu. Oui. Elles interviennent pourtant dans des actions tous azimuts, suite à des débats entre tous les pays représentés au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, est-ce qu'on peut retracer ce soir avec vous, Chloé Morel, l'histoire et surtout la genèse de l'ONU et de ses agences ? Je crois qu'elles ont été, l'ONU a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est sans doute pas un hasard, mais vous allez sans doute nous en parler. Et puis, peut-être nous dire deux mots de ses principales agences et de qui finance.
Voilà, donc tout à fait, ce sont des questions importantes. Donc l'ONU a été créée à la conférence de San Francisco entre juin et septembre 1945 par les principaux pays alliés, les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les démocraties, qui ont décidé de reconstruire le monde sur des bases pacifiques et sur des bases universalistes et progressistes. Alors, l'ONU, c'est la paix, bien sûr, avec les casques bleus, mais aussi les droits de l'homme, avec la Déclaration universelle des droits de l'homme, le premier texte universel dans ce domaine de 1948, et aussi développement économique et social, favoriser le développement avec le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, créé en 1965, qui a lancé par exemple les objectifs du millénaire pour le développement en l'an 2000. Et aujourd'hui, les objectifs du développement durable qui ont été lancés en 2015 et qui sont pour être atteints en 2030. Mais comme vous le disiez, il y a beaucoup d'agences spécialisées de l'ONU. Il y en a 17, comme l'UNESCO, qui est à Paris et qui s'occupe de l'éducation, de la science, de la culture et aussi de plus en plus du patrimoine avec sa célèbre liste du patrimoine mondial qui compte aujourd'hui plus de 1000 sites dans le monde et qui protège vraiment promeut la restauration, la protection des sites, ça c'est très important. Nous avons aussi l'UNICEF pour les enfants, ou encore l'OIT, Organisation internationale du travail, qui s'efforce de faire adopter des normes internationales pour protéger les travailleurs dans le monde. Ça aussi c'est très important quand on sait qu'aujourd'hui il y a encore de très mauvaises conditions de travail et même du travail forcé dans le monde. Donc elle a fait beaucoup de conventions très progressistes, mais le problème souvent c'est que certains États ne les ratifient pas, certains États refusent de se plier à ces textes et à y obéir. Les États-Unis, par exemple, sont très réticents à se plier à ces textes internationaux. On a aussi la FAO qui va être très importante dans le contexte actuel. C'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture qui est basée à Rome et qui s'occupe de faire des distributions alimentaires, d'aider les pays à se développer sur le plan agricole. Et c'est important aujourd'hui parce qu'on pense que cette crise du coronavirus va avoir pour effet aussi peut-être de provoquer une crise alimentaire mondiale. Donc la FAO a tout son rôle à jouer. On a aussi l'UIT, l'Union internationale pour les télécommunications, qui s'est occupée au début des télégraphes, puis du téléphone, et qui aujourd'hui pourrait se saisir de l'enjeu d'Internet, c'est-à-dire qu'elle pourrait, essayer de mettre en place une gouvernance démocratique d'Internet qui ne soit contrôlée ni par les États-Unis, ni par la Chine ou autre, et qui soit vraiment démocratique. Donc ça, c'est important. Toutes ces agences, elles ont leur importance. Et pour revenir à l'agence, enfin à l'ONU, qui est vraiment, avec ses casques bleus, c'est un peu l'emblème de l'ONU, les casques bleus sont actifs aujourd'hui dans 13 pays du monde, dont 7 en Afrique et 4 au Moyen-Orient. Donc ils sont actifs dans beaucoup d'opérations de maintien de la paix. Il y en a eu environ 60 au total, et c'est une action importante, même si on dit souvent que l'ONU est paralysée à cause du veto. Voilà. Et alors, vous me demandez aussi sur le budget, oui ?
On va y venir après parce que ce que comprennent pas trop bien, je crois, les citoyens, c'est le fonctionnement de l'ONU et pourquoi il n'est pas plus efficace dans certains domaines. Hein.
Oui. Alors, le fonctionnement de l'ONU, pourquoi il n'est pas plus efficace ? C'est-à-dire que l'ONU et ses agences font beaucoup de rapports, édictent beaucoup de recommandations, de résolutions et même de conventions, mais le problème, c'est que souvent, ça n'est pas appliqué. Ça reste des belles paroles qui ne sont pas appliquées, qui restent lettres mortes. Parce que soit des États refusent de ratifier les textes, soit ils ne les respectent pas. Parce qu'en fait, l'ONU et ses agences, malheureusement, n'ont pas beaucoup de forces contraignantes, de forces exécutoires. D'accord. Contrairement à d'autres agences, comme l'OMC, par exemple, l'Organisation mondiale du commerce, qui, elle, a la possibilité d'imposer des mesures de rétorsion financière aux États, alors qu'elle est moins démocratique que l'ONU. Il faudrait que l'ONU et ses agences aient plus de moyens pour faire exécuter leurs textes, qui sont des textes très importants, votés démocratiquement par l'Assemblée générale de l'ONU, qui comprend les 193 États membres, soit presque tous les pays du monde, et où chaque État, riche ou pauvre, a une voix. Voilà, donc c'est ça le problème, le manque d'efficacité, comme vous disiez, de l'ONU. Une autre raison peut-être de ce manque d'efficacité, c'est le veto. Comme il y a un droit de veto pour les 5 pays, oui.
Voilà, pays non, membres. Je voulais vous poser la question, parce qu'on entend parler souvent du Conseil de sécurité et du veto, du droit de veto de certaines grandes puissances.
Voilà. Donc en fait, c'est quelque chose qui est justement une entorse au caractère démocratique de l'ONU. C'est-à-dire qu'à la création de l'ONU, les 5 pays alliés considérés comme les grands vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les États-Unis, l'URSS, la Chine, le Royaume-Uni et grâce à Charles de Gaulle, la France, et grâce à la résistance aussi, la résistance notamment communiste, etc., ça a permis à la France de figurer parmi ses vainqueurs. Donc ces 5 pays ont eu un privilège énorme, c'est qu'ils ont le droit de veto. Ce sont les seuls qui ont le droit d'être membres permanents du Conseil de sécurité. Sinon, les autres pays, c'est par roulement, c'est de temps en temps par roulement, tous les 5 ans. Et donc, ils ont le droit de veto, de s'opposer à une décision, même si elle est adoptée par la majorité des États membres. Par exemple, du coup, pour la guerre civile en Syrie, qui est une des pires tragédies du 21e siècle, depuis 2011, qui a fait des centaines de milliers, de millions de milliers de morts, eh bien, en fait, on n'a pas pu envoyer des casques bleus en Syrie, alors que ça aurait été nécessaire. Parce que, par exemple, la Russie s'y est opposée. La Russie a mis son veto. Mmh. Donc, ce veto, il empêche l'action de l'ONU d'être efficace et d'être active. Alors, pour pallier ce problème, la France, par exemple, depuis plusieurs années, a proposé une mesure. C'est l'idée de suspendre le droit de veto dans les cas où on parle de cas graves, de situations graves, où il y a eu des massacres, des crimes de masse. Dans ces cas-là, on ne pourrait pas avoir le droit de veto. Mmh. Ça serait une solution pour enlever cette paralysie de l'ONU.
Alors, on va poursuivre, mais si vous voulez bien, je vous avais demandé si vous étiez d'accord de nous proposer une petite pause musicale. Donc, je vais vous laisser peut-être commenter cette pause musicale et ce choix.
Oui, Lassa, mexicano-américaine, ouais. Et qui chante en espagnol, et c'est très beau, très poétique, et un peu mélancolique aussi.
D'accord. Alors, on va écouter, puis on coupera peut-être un peu sur la fin, on baissera doucement pour reprendre, comme on n'a pas trop de temps, hein, pour reprendre nos questions, hein, et nos débats sur l'ONU et l'OMS.
Oui.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah, ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste. He venido yo corriendo. olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Ahora sí, he venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego.
Eh bien, merci pour ce choix. Je ne sais pas si nos auditeurs connaissaient. Moi, je découvre en tous les cas un très bon choix. Merci, Chloé Morel.
Merci.
On reprend donc notre débat. Peut-être une petite question pour ça, parce que on a parlé de toutes ces agences, 17 agences de l'ONU, toutes ces interventions sur le terrain. Qui finance l'ONU?
Alors, les États membres financent chacun avec une contribution qu'on appelle ordinaire, budget ordinaire, c'est-à-dire elle est calculée de manière assez démocratique par rapport à la richesse de chaque pays, par rapport au PIB de chaque pays. Donc forcément, les États-Unis, qui sont première ou deuxième puissance mondiale, ont une forte contribution effectivement à verser. Environ 20 à 25% du budget de l'ONU, c'est les États-Unis. La Chine aussi, maintenant, a une forte contribution. Après, il y a aussi des contributions extraordinaires, le budget extraordinaire, ça veut dire les États membres, s'ils veulent, ils peuvent donner plus, ils peuvent donner quelque chose en plus, c'est eux qui décident combien, mais dans ce cas-là, ils ont le droit de décider à quoi sera utilisé cet argent. Donc, ça leur donne un pouvoir supplémentaire, ils vont choisir finalement à quoi ça va être utilisé. Et puis maintenant, il y a aussi des fonds privés, parce que comme l'ONU et ses agences ont un faible budget, seulement quelques milliards de dollars par an, par exemple l'OMS, pour avoir une idée, c'est seulement le budget de un tiers du budget des hôpitaux parisiens, le budget de l'OMS pour le monde entier. Donc c'est pas beaucoup. Donc justement, l'ONU et ses agences ont besoin de plus de financement, donc le problème c'est qu'elles font appel maintenant au secteur privé. Mais ce n'est pas sans danger, parce que le privé, il a une logique plus mercantile, marchande, et peut-être il cherche aussi des contreparties à blanchir son image, etc., les multinationales. Donc ça, il faut faire attention. C'est un financement privé qui a été beaucoup promu par Kofi Annan quand il était secrétaire général de l'ONU vers les années 2000. Et aujourd'hui, par exemple avec l'UNESCO, il y a beaucoup de programmes en partenariat avec des grandes firmes comme L'Oréal ou d'autres. Donc ça se généralise, ce recours au financement privé, pour compléter le budget qui est faible.
Mais alors, peut-être pour qu'on comprenne bien, voilà, vous expliquiez tout à l'heure que il y avait ce droit de veto, hein, qui apportait une certaine forme de paralysie quelquefois de ces institutions. Mais alors pourquoi Trump essaie de les remettre en cause aujourd'hui, hein, en particulier à travers l'OMS, hein, qu'il accuse de tout le monde, puisque n'importe comment, il a la possibilité toujours de s'opposer aux décisions de l'ONU, hein, par son droit de veto. Oui. Pourquoi aujourd'hui remettons en cause ces institutions et Trump?
Alors, une des principales raisons, je pense que c'est l'aspect financier, c'est-à-dire qu'il se retire, il retire le financement américain, ça veut dire qu'il ne va pas verser la participation financière qui est importante des États-Unis à l'OMS, de même qu'il a retiré, c'est pas la première fois, comme vous l'avez dit, à l'UNRWA et à l'UNESCO, parce que l'UNESCO en 2011-2012 avait accepté la Palestine comme État membre, et donc pour protester, les États-Unis avaient retiré leur financement à l'UNESCO. Donc ça peut être des motivations économiques pour ne pas verser leur contribution, ou alors pour protester spécifiquement contre une action de cette institution, comme l'admission de la Palestine, ou alors, là, pour l'OMS, ça peut être aussi pour montrer sa désapprobation par rapport à ce qu'il voit comme une trop grande proximité entre l'OMS et la Chine. Voilà, c'est ça. Il pense que le secrétaire général de l'OMS, le docteur Tedros, qui est un Éthiopien, qui a effectivement été assez proche de la Chine dans sa manière de diriger l'OMS, et voilà, Trump veut montrer son désaccord par rapport à cette politique qu'il estime être trop pro-chinoise. D'accord. Déjà dans les années 80, les États-Unis s'étaient retirés de l'UNESCO aussi, parce qu'à l'époque, ils estimaient que l'UNESCO était trop tiers-mondiste, trop proche des pays d'Afrique, des revendications des pays d'Afrique. Donc voilà, à chaque fois, c'est pour manifester un désaccord par rapport à la politique de ces agences.
D'accord. Quand on voit la façon dont Trump gère la pandémie aux États-Unis, oui, c'est peut-être aussi pour faire oublier ses propres responsabilités un petit peu.
Hein. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Ah. Et puis, la Chine, certes, est peut-être influente à l'OMS, mais il ne faut pas oublier que la Chine a 1,3 milliard d'habitants. Donc, c'est aussi un peu logique que ce pays pèse d'un poids important dans l'ONU. Parce que certains observateurs, comme le sociologue suisse Jean Ziegler, disent qu'on pourrait aussi faire peser le poids de chaque pays à l'ONU, non pas en fonction de la richesse du pays, mais en fonction du nombre d'habitants. Ça serait une autre manière démocratique de faire peser les pays, parce que le Luxembourg, par exemple, face à la Chine, c'est pas du tout le même nombre d'habitants. Pourtant, à l'Assemblée générale, chaque État a une voix. Chaque État a une voix, qu'il soit grand ou petit.
Alors, ça nous amène un peu à notre troisième et dernière question. Aujourd'hui, on voit bien, on est aujourd'hui dans un monde global, hein, globalisé. On est dans une mondialisation qui fait que tout le monde est un peu interdépendant les uns des autres. Hein. On voit bien, avec cette crise d'ailleurs, comment elle se propage à travers le monde par tous ces liens qui existent. Et aujourd'hui, pourtant, malgré cela, on s'aperçoit qu'un certain nombre de dirigeants prônent un fort repli nationaliste. Alors, Trump en premier lieu, mais on peut citer aussi Erdogan, on peut citer même Johnson, hein, Boris Johnson, on peut citer Modi, l'Indien et d'autres. Est-ce que cette vision du monde n'est pas porteuse de danger, et est-ce que justement il ne faudrait pas au contraire raviver et donner plus de pouvoir aux institutions internationales?
Oui, effectivement, ça paraît très important. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez, on est dans un monde interdépendant et la plupart des grands enjeux transcendent les frontières étatiques, comme les enjeux de la pollution, du réchauffement climatique, des migrations, des réfugiés, toutes ces questions, les maladies, les épidémies, toutes ces questions dépasse les frontières, ça ne peut pas être un seul État qui le règle dans l'enceinte de ses frontières, il faut que ça soit une solution mondiale. Et donc justement, l'ONU et ses agences apparaissent comme des bonnes instances pour faire une gouvernance de ces problèmes internationaux et de manière démocratique. Donc c'est vrai qu'il c'est très important que l'ONU puisse se renforcer, mais malheureusement actuellement c'est plutôt l'unilatéralisme qui domine chez beaucoup de puissances comme les États-Unis, avec des leaders parfois d'extrême droite comme on a au Brésil, États-Unis, Hongrie, Pologne, des dirigeants très autoritaires qui ne veulent pas céder de leur souveraineté nationale, qui veulent garder la main et qui ne veulent pas partager les décisions, consulter, faire des négociations collectives, ce qui était pourtant l'idéal de l'ONU. Et il y a d'autres agences aussi qui marginalisent l'ONU, comme les clubs comme le G7, l'OCDE, les clubs de pays riches qui tendent aussi à prendre une place qui devrait être celle de l'ONU. Donc il est vraiment urgent de bien faire connaître l'ONU et ses agences dans le grand public, et aussi que les peuples fassent pression sur leur gouvernement pour que leur gouvernement prennent leurs responsabilités à l'ONU, respectent les décisions de l'ONU, s'engagent plus dans toutes ces actions et versent leurs contributions financières pour que ces agences puissent avoir leur impact. Parce qu'elles ont quand même un impact malgré tous leurs défauts, et si elles n'existaient pas, le monde serait encore bien pire si l'ONU n'existait pas.
Très bien. Écoutez, Chloé Morel, on va vous remercier pour cette participation à notre émission qui reviendra donc la semaine prochaine. Je voudrais remercier également Alassane, notre technicien. Bon, on a eu des petites, on a dû décaler un peu notre horaire de départ et on a eu des petites mises au point techniques à faire. On n'est pas tout à fait dans les conditions habituelles, voilà. Bon, mais j'espère que tout de même nos auditeurs ont pu nous entendre dans de bonnes conditions et que ça sera utile à la réflexion. Mais on reviendra dès la semaine prochaine pour une autre chronique, et qui cette fois sera consacrée justement au rôle de la Chine pendant cette pandémie. Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Chloé Morel.
Merci à vous pour votre invitation.